8h24.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-10.
Et avec Léa Salamé, nous vous proposons un grand entretien en forme de table ronde après l'attaque inédite lancée par l'Iran contre Israël. Dans la nuit de samedi à dimanche, 300 drones et missiles envoyés contre l'État hébreu, pardon, pour la plupart depuis le territoire iranien. C'est sans précédent, Pierre Aski le disait, et beaucoup de questions se posent ce matin. On va en parler, Léa, aujourd'hui avec...
Christophe Ayad, grand reporter au Monde. Vous venez de publier Géopolitique du Hezbollah au PUF. Bonjour à vous. Bonjour à Dov Alphon, bonjour. Directeur de la rédaction Libération, ancien rédacteur en chef du quotidien israélien Haaretz.
Bonjour.
Et Armin Arefi, grand reporter au Point, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, ancien correspondant en Iran et auteur de Un printemps à Téhéran, édité chez Plomb.
Bonjour.
Bonjour également.
Voilà, nous sommes 6 mois après le 7 octobre et la guerre à Gaza. Israël a donc été la cible d'une attaque sans précédent. Comment analysez-vous cette attaque? Comment qualifiez-vous son ampleur? Marque-t-elle, Dov Alphon, un tournant majeur au Proche-Orient?
Forcément par son côté inédit déjà, Nicolas. Donc la dernière fois que l'Iran avait attaqué Jérusalem, je me réfère à cette vidéo amateur où les missiles iraniens planent au-dessus du dôme de la mosquée d'Omar et d'El-Aqsa, qui sont des images saisissantes. La dernière fois que c'était arrivé était en 714. L'armée perse allait sur Jérusalem avec l'aide des Juifs contre les Byzantins. C'est donc quand même quelque chose d'inédit et historique, oui. Mais est-ce que c'est un incident majeur qui sera soudain classé parmi les anecdotes de l'histoire dans quelques mois? Ou est-ce que nous sommes devant un engrenage particulièrement périlleux? Et quand je dis périlleux, c'est périlleux en fait pour le monde entier, pas seulement pour la région.
Vous allez nous dire pourquoi c'est à vos yeux périlleux. Mais c'est vrai que c'est une première depuis 714. Donc c'est la première fois que l'Iran envoie depuis son territoire des missiles et des drones sur Israël. Comment lisez-vous cette attaque, Armin Arefi? Y voyez-vous, vous, un basculement historique?
C'est historique dans le sens où jamais la République islamique, qui appelle à la destruction d'Israël depuis sa création il y a 45 ans, de la République islamique, n'avait attaqué directement l'État hébreu. L'Iran avait pour habitude d'agir via ses proxys, donc ses groupes arabes alliés au Liban, en Syrie, en Irak, pour ne jamais être pris la main dans le sac et ne pas provoquer de réponse israélienne. C'est ainsi que l'Iran, depuis 11 ans, est frappé en Syrie par Israël. Jamais l'Iran n'avait répondu sur le territoire israélien. La donne a changé, comme l'a dit Pierre Aski tout à l'heure, après l'attaque, peut-être l'attaque de trop, celle du consulat iranien à
Dites-nous
Damas.
Dites-nous pourquoi c'était particulièrement une attaque violente aux yeux des Iraniens. Pourquoi l'homme qui a été tué était un très très grosse légume, quoi.
Parce
c'était
que
pas n'importe qui.
Parce que Mohammad Reza Haidari, donc déjà il y a 7 gardiens de la révolution, donc l'armée idéologique de la République islamique, qui ont péri dans cette attaque. L'attaque a eu lieu d'ailleurs dans le consulat iranien, bâtiment diplomatique, donc les conventions de Vienne, elles ont volé en éclats, en tout cas pour Israël à ce moment-là, sans condamnation occidentale, notamment de la part de la France. Et la personne donc militaire, gardien de la Révolution, qui est donc une armée régulière, en tout cas pour la République islamique, une armée officielle tout du moins, Mohammad Reza Haidari, était le numéro 2 de la branche extérieure des gardiens de la Révolution, la force Al-Rots, il était donc en charge de tout le soutien logistique au groupe de l'axe de la résistance, c'est-à-dire Hezbollah, milices chiites irakiennes, syriennes et milices rebelles yéménites houthis, donc ces mêmes groupes qui, depuis le 7 octobre, accentuent la pression sur l'État hébreu en multipliant les attaques, non pas depuis le territoire iranien, mais depuis, comme on l'a dit, le Liban, la Syrie, l'Irak et le Yémen.
Et vous, Christophe Ayad, cette attaque vous a-t-elle surpris ou, au fond, les Iraniens étaient obligés de réagir après la destruction, on vient d'en parler, de leur consulat à Damas, la mort de ces 7 personnes et de ce général? L'Iran aurait perdu la face, entre guillemets, en ne faisant rien?
Il aurait perdu beaucoup, beaucoup de sa crédibilité, notamment auprès de ses alliés arabes, du fameux axe de la résistance. C'est-à-dire que il serait passé pour lâche, alors qu'il passe son temps à appeler à la destruction du petit Satan, Israël, après un tel coup et une telle humiliation. Qu'était la destruction de son consulat à Damas. Il ne pouvait pas ne rien faire. Après, il y avait plusieurs options. Il pouvait répondre par l'action terroriste, contre une enceinte diplomatique israélienne, dans plusieurs semaines, plusieurs mois, il pouvait répondre par l'intermédiaire de ses alliés,
et du Hezbollah,
comme il avait l'habitude de le faire, le Hezbollah, les milices houthis au Yémen ou les milices irakiennes, et puis il y avait enfin l'option de répondre directement. S'il l'a fait, c'est que il a eu peur de passer pour faible, mais il s'est senti aussi suffisamment fort pour le faire. C'est-à-dire que ce qu'on a découvert aussi, enfin ce que le monde a découvert, même si les Israéliens, les dirigeants israéliens, c'est pas une nouveauté pour eux, c'est que l'arsenal iranien a changé. Les Iraniens ont développé une industrie qui fabrique des missiles balistiques de croisière et qui fabrique des drones par milliers. Puisque d'ailleurs ils sont vendus à la Russie qui les utilise massivement en Ukraine. Donc ils peuvent se permettre de balancer 300 drones.
Mais vous dites ils ne pouvaient pas ne pas réagir sous peine de perdre la face. Mais ce matin, est-ce qu'ils ont gagné ou est-ce qu'ils ont perdu la face? Parce que quand on voit, pardon, de vous dire que les Israéliens ont intercepté donc 99% des projectiles envoyés, des 300 drones et ou missiles de croisière, l'Iran, ce matin, certes, il montre qu'ils peuvent envoyer, qu'ils peuvent atteindre Israël, qu'ils ont des drones plus sophistiqués, mais enfin, est-ce qu'ils ont gagné, Armin?
Pour répondre à votre question, la dernière attaque indirecte, si l'on peut dire, de l'Iran contre Israël, après l'élimination d'un autre haut gradé des gardiens de la Révolution, Razi Mousavi, en décembre dernier, lui aussi abattu à Damas, c'était une riposte de missiles balistiques contre un curieux bâtiment censé abriter des agents du Mossad à Erbil, au Kurdistan irakien. C'est-à-dire que jusqu'ici, ça se limitait au Kurdistan irakien. Là, comme l'a dit Devalfon, on a des images extrêmement fortes, publiées d'ailleurs, retweetées par les réseaux, les chaînes officielles iraniennes, qui montrent justement cette pluie de missiles interceptés au-dessus de la mosquée Al-Aqsa. Donc ce sont des images qui font, on va le dire, rêver une partie, en tout cas, du monde arabe, à défaut de faire rêver une grande partie de la population iranienne. Donc là-dessus, oui, la réponse, en tout cas cette forme de réponse, l'ampleur de ces missiles, plus de 300 de drones, missiles de croisière, missiles balistiques, apporte, c'est une démonstration de force de la part de la République islamique, d'autant que elles affirment n'avoir ciblé que des sites militaires et d'avoir épargné des civils. Visiblement, ce matin, il n'y a qu'un ou deux blessés dans la communauté bédouine israélienne.
Oui, alors, pour vous répondre, Léa, vous disiez, est-ce que c'est une victoire de l'Iran? C'est pas une victoire militaire, c'est une victoire symbolique. Militairement, les Iraniens ont tout fait pour qu'elle échoue. C'est-à-dire qu'ils ont prévenu les Américains, directement ou indirectement via leurs contacts à Oman et par l'intermédiaire des Omanais, et ils ont laissé largement le temps à Israël de mettre en place une sorte de parapluie avec l'aide des Américains qui allaient intercepter ces drones.
Ils voulaient pas de mort, quoi. En gros,
ils voulaient un message
fort symbolique, mais ils ne veulent pas ouvrir une guerre.
Pas ouvrir une guerre ouverte.
Voilà, l'Iran a cherché à éviter à ce que la riposte ne soit pas maximale, Devalfon. Total, débouchant de fait sur une guerre ouverte?
Ben, je ne sais pas s'ils pouvaient deviner qu'à ce point, leur attaque échouerait. Évidemment, ils ne voulaient pas créer une vague de morts et aussitôt donc appeler à une riposte israélienne. Mais pouvaient-ils comprendre que 99,3% de leurs missiles allaient être stoppés, que toutes ces attaques feraient une blessée, une fillette palestinienne bédouine? Je ne crois pas. Je pense qu'on est dans une dynamique où il est très difficile aux deux parties de comprendre qu'est-ce qu'ils font. Et c'est comme ça depuis le début, depuis cette fameuse attaque donc sur l'annexe du consulat, petite entourloupe qui a permis à Israël de dire nous n'avons en fait absolument pas blesser quelqu'un qui est protégé par le statut diplomatique. Et d'ailleurs, cela vient après l'attaque sur l'ambassade israélienne en Argentine, revendiquée maintenant attribuée à l'Iran. Mais tout de même, on joue un jeu extrêmement dangereux à ce moment.
On va parler des conséquences, mais juste encore un mot sur ce qui s'est passé samedi soir. Israël a donc intercepté 99% des tirs iraniens grâce à son dôme de fer et grâce à l'aide évidemment des alliés, des Américains, des Britanniques, aussi des Français. Emmanuel Macron vient de reconnaître que nous sommes intervenus, a dit le président de la République, à la demande de la Jordanie pour intercepter ces drones. Cette défense aérienne, pour pour choper les drones et les missiles, pardon de parler un peu vulgairement, ça a un prix. Alors, est-ce que les chiffres qu'on a vus défiler sont justes, Dov Alphon, que intercepter ces projectiles, ces 300 projectiles, a coûté 1 milliard d'euros? Est-ce que ça coûte aussi cher pour Israël et pour ses alliés de...
Oui, les estimations semi-officielles, donc de haut cadre du ministère du Trésor israélien et de l'armée, parlent de 4 à 5 milliards de shekels, ce qui fait 1,2 milliard d'euros. C'est peu par rapport aux Jeux Olympiques à Paris. C'est beaucoup pour un budget
militaire.
C'est beaucoup.
Les Jeux Olympiques à Paris, Pierre Moscovici nous disait que ça coûtait 5 milliards.
Oui, oui.
Là, c'est donc, 1 milliard. C'est 20%
pour la nuit.
Pour une nuit. Ça fait cher payer la nuit. Et ça démontre bien que ce serait absolument impossible pour Israël d'entrer dans une guerre de longue haleine de ce type. Maintenant, Joe Biden a recommandé immédiatement de nouvelles aides financières qui devraient arriver sous peu. C'est jouable, mais c'est extrêmement cher.
Alors, essayons de nous projeter maintenant. Que va faire Israël? Que peut faire Israël? Y aura-t-il, selon vous, une riposte? Ou l'épisode est clos, Christophe Ayad?
Alors, là où l'Iran a pris un risque, c'est qu'il y a une occasion en or pour Israël, de mettre à exécution ses plans de longue date de frappe massive en Iran pour déstabiliser le régime et surtout ralentir, faire reculer son programme nucléaire. Maintenant, ce plan ne peut pas être mis en œuvre sans l'accord et le soutien des États-Unis.
Qui n'en veulent pas.
Et il semble que Biden n'en veut absolument pas.
Donc, vous ne voyez pas, vous voyez une riposte mesurée de l'État d'Israël.
Je vois une riposte mesurée, pas forcément immédiate, et de la reprise des hostilités secrètes.
Rien n'a filtré de ce qui s'est passé dans le cabinet de guerre hier soir en Israël, mais ils ont promis une riposte. Alors, est-ce qu'elle sera immédiate ou est-ce qu'elle sera dans quelques semaines? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous imaginez, Armin Arefi? Est-ce que vous imaginez une possibilité d'escalade?
Alors j'aimerais déjà juste revenir sur une chose, 99% d'interceptions, ce sont quand même les chiffres donnés par Tsahal, donc l'armée d'Israël. On a quand même vu des vidéos de missiles balistiques iraniens frappant une base, la base de Nevatim, donc à côté de Beersheva, dans le sud d'Israël, dans le désert du Negev, la même base d'où avaient décollé les F-35 américains qui ont frappé le consulat iranien. Donc encore une
donc
fois,
vous mettez en doute les 99%?
Je ne mets pas en doute, mais je dis justement qu'il s'agit des chiffres de Tsahal et qu'il y a des missiles quand même qui ont atteint, en tout cas ceux qui ont atteint et qui ont provoqué des dégâts, ils ont visé notamment cette fameuse base d'où seront partis les F-35. Pour répondre à votre question, l'escalade, enfin la balle est dans le camp aujourd'hui d'Israël. Israël, sa dissuasion a été mise à mal par cette attaque sans précédent depuis en tout cas 33 ans, comme vous l'avez dit, comme l'a dit Dov Alphon. Maintenant, quand on dit que la balle est dans le camp d'Israël, tout dépend de Joe Biden. Je pense que les Iraniens, en tout cas c'est ce que me disent, j'ai interviewé aujourd'hui dans Le Point un des fondateurs des gardiens de la Révolution, il affirme que les Iraniens savent que les Américains ne veulent pas s'engager dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Ils sont beaucoup plus dans une volonté de se déporter vers l'Asie et ils ne veulent pas de nouvelle guerre. C'est le cas de Joe Biden, c'est également le cas avant lui de Donald Trump. Donc les Iraniens misent sur le fait que seuls les Israéliens n'iront pas frapper l'Iran, car encore une fois, pour attaquer le programme nucléaire iranien et les sites nucléaires iraniens enfouis, ils ont besoin au moins du parapluie américain, de l'aide, de la couverture aérienne des États-Unis. Or, il semble bien clair aujourd'hui que les États-Unis ne veulent pas participer à une action contre l'Iran, de la même façon que les Iraniens. Il faut aussi dire ceci, les Iraniens, il est rare qu'aujourd'hui des assaillants annoncent, alors que le dernier missile n'a pas encore quitté l'Iran, qu'ils annoncent qu'ils vont frapper ce pays. Attention, on frappe, comme donc démonstration de force. Donc les Iraniens misent sur le fait que les Américains ne frapperont pas. Maintenant, est-ce que les Israéliens vont écouter? Les Israéliens ont leur dissuasion qui sont mises à mal. Les rôles sont d'une certaine manière inversés par rapport à la situation avant l'attaque iranienne. Avant l'attaque iranienne, c'est les Iraniens qui étaient obligés de réagir. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est Israël. Est-ce que les Américains, le grand parrain américain, vont l'accepter? C'est toute la question.
Dov Alphon, sur le rôle et le pouvoir des États-Unis, Joe Biden a prévenu qu'il fallait éviter l'escalade, que les États-Unis ne soutiendraient pas une contre-attaque israélienne. Vous tenez une victoire, prenez la victoire, aurait dit Biden à Netanyahou selon le média Axios. Est-ce que Benjamin Netanyahou écoutera?
Il n'a absolument pas averti Joe Biden de la frappe déjà sur le fameux consulat iranien. Donc, pas forcément. Et de toute façon, on est dans un quiproquo digne de Fedot et des meilleurs vaudevilles, comme les Iraniens essayent de deviner qu'est-ce que les Américains pensent. Les Israéliens essayent de deviner ce que les Iraniens pensent, et dans tout cela, on oublie qu'une simple étincelle, un malentendu, un pilote jordanien, tout peut soudain plonger la région dans l'inconnu. Et donc, je ne crois pas trop à ces raisonnements très diplomatiques. Ils vont faire ça. Ce n'est pas un jeu d'échecs. C'est la réalité du Moyen-Orient où tout peut soudain basculer très vite.
Benjamin Netanyahou a-t-il intérêt aujourd'hui à poursuivre sa guerre, voire à ouvrir le front? On sait qu'il a envie d'ouvrir le front avec le Liban et avec le Hezbollah. Est-ce qu'il a tout intérêt aujourd'hui pour garder son poste alors qu'il est contesté par une grande partie de plus en plus ultra impopulaire?
80%, oui.
80% des Israéliens, est-ce qu'il a intérêt à ouvrir le front avec le Hezbollah, même s'il a le souvenir de la guerre de 2006 avec le Liban où Israël a perdu?
Il a surtout tout intérêt à faire rentrer les États-Unis dans ces confrontations. C'est surtout ça. Qui pourrait
les Américains ne veulent pas. Ils sont à 5 mois de l'élection présidentielle.
Maintenant, si des missiles du Hezbollah atteignent une base américaine en Irak, ils seront bien forcés, n'est-ce pas, de répondre quand même.
Christophe Ayad, sur ce point.
Non, les Américains ne veulent pas, mais effectivement, Israël, je veux dire, Israël n'a jusqu'à présent pas écouté les conseils, voire les admonestations de Biden sur la façon de mener la guerre à Gaza. Il se trouve que la guerre à Gaza est en train de s'enliser, que Netanyahou n'arrive pas à obtenir une victoire claire, et que s'il veut rassembler à nouveau le camp occidental derrière lui, il a effectivement tout intérêt à déclencher une confrontation régionale, parce que personne n'abandonnerait Israël face à une offensive généralisée.
Et le Hezbollah, ils le veulent? Vous venez de publier, la semaine dernière, Géopolitique du Hezbollah au PUF, Christophe Ayad. Le Hezbollah, ils veulent ou ils veulent surtout pas?
Non, pour l'instant, le Hezbollah ne veut pas d'une confrontation ouverte, parce que le Hezbollah, c'est un fusil à un coup. Il dispose de 150 missiles, c'est énorme, mais une fois qu'il les aura tirés, il mettra 15 ans à reconstituer son arsenal, comme il a mis 15 à 20 ans à le reconstituer après la guerre de 2006. Deuxièmement, si l'Iran n'a pas fait entrer le Hezbollah dans sa frappe contre Israël samedi soir, c'était la preuve que l'Iran voulait d'une confrontation limitée. Le Hezbollah, c'est l'arme suprême aujourd'hui de l'Iran contre Israël. Ce n'est pas seulement un proxy, c'est l'arme la plus avancée et la plus efficace. Mmh. C'est que 150 missiles qui tombent, non pas en même temps, mais à raison de plusieurs milliers par jour sur Israël, c'est l'assurance d'avoir des milliers de morts en Israël. Et ça, le Hezbollah n'a pas envie d'entrer là-dedans pour le moment, parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le jeu qui en vaudrait la chandelle, c'est une menace contre le régime iranien et contre son programme nucléaire.
Question au standard d'Inter. Bonjour Hugues.
Bonjour.
Vous nous appelez Lyon, on vous écoute.
Oui, exact. Alors, merci de prendre mon appel. Question simple, peut-être un peu simpliste, mais pour avoir une vision claire de l'échiquier lorsque on est chez nous, tranquille, voilà. Est-ce que, qui serait avec l'Iran en cas de conflit? Quels seraient ses soutiens? Et j'avoue que pour l'instant, j'en ai pas une vision claire. Autant les Occidentaux, oui. Autant certaines organisations militaires locales, oui. Mais en termes d'État.
Mmh. Les États alliés de l'Iran en cas de conflit. Merci Hugues pour cette question. Armin Arefi vous répond.
Oui, je pense que c'est assez clair. Aujourd'hui, on a vu se dessiner, à la faveur d'ailleurs du conflit en Ukraine, un axe Téhéran-Moscou-Pékin. L'aide est aujourd'hui militaire, comme on disait tout à l'heure. Donc des drones et des missiles balistiques sont vendus par l'Iran à la Russie. Pour la Chine, c'est un peu plus compliqué. C'est avant tout un soutien économique. Jusqu'ici, le soutien russe et chinois à l'Iran s'est manifesté par le veto qu'il dépose à chaque fois, en tout cas au cours de la dernière décennie, au Conseil de sécurité, lorsque l'Iran est sous le coup d'une résolution. Il est probable que, d'ailleurs, la résolution déposée par la Chine et la Russie aussi pour condamner au Conseil de sécurité de l'ONU la frappe israélienne sur le, en tout cas attribuée à Israël sur le consulat iranien à Damas, s'est vu opposer un veto de la part des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne. Maintenant, s'il y avait un conflit militaire, je ne suis pas certain que les Russes, en tout cas, aident ouvertement les Iraniens. D'ailleurs, la question aussi que beaucoup aujourd'hui en Iran se posent, qui décrit cette alliance entre Moscou et Téhéran, c'est qui a donné les coordonnées du général iranien, de sa position au sein du consulat iranien à Israël. S'agit-il de la Russie? S'agit-il du régime syrien? On sait que la présence iranienne en Syrie est gênante, notamment pour ce qui est de la Russie. La Russie a fermé les yeux depuis 10 ans, elle ferme les yeux, elle autorise Israël à frapper les généraux iraniens, donc c'est pas une alliance indéfectible. Maintenant, aujourd'hui, à la faveur du conflit en Ukraine, on voit quand même, voilà, d'un côté Pékin, Moscou, Téhéran, et de l'autre, le monde occidental avec l'Ukraine.
Oui, et au niveau régional, si on poursuit la question d'Hugues, notre auditeur, s'il y avait une escalade entre l'Iran et Israël, quelles seraient les réactions de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite, des pays sunnites? Parce qu'on a vu que cette nuit, la Jordanie était intervenue pour intercepter, enfin, samedi soir, les drones iraniens. Ça a mis en colère sa population, qui a dit comment ça, vous pactisez avec Israël. Où seraient les États sunnites dans une éventuelle confrontation entre Israël et l'Iran? C'est quoi le pire pour eux?
C'est justement la question de la lecture des événements. Tout dépend en fait des circonstances. La Jordanie dit tout ce que nous avons fait, c'est protéger notre territoire. Nous ne voulons pas que des missiles balistiques iraniens survolent Amman. Et d'ailleurs, le président de la République dit bien que c'était pour protéger des emprises françaises au Moyen-Orient aussi. Donc on fait très attention. On n'aide pas Israël. On se protège de l'Iran. Si l'Arabie Saoudite, la Jordanie peuvent prétendre que tout ce qu'elles font, c'est se défendre contre une ingérence iranienne, contre une attaque iranienne, ben oui, forcément, elles seront du côté d'Israël. Mais si Netanyahou rend cette lecture impossible, parce que c'est un défi, une humiliation à l'Iran, ça n'a rien à voir avec les intérêts régionaux, ben, ce leur sera carrément
Vous
impossible.
Semblez inquiet, Davalfon, vous qui connaissez parfaitement la politique israélienne, vous semblez inquiet de la riposte de Netanyahou.
Forcément, puisque nous avons des leaders qui jouent leur population locale. Nous avons Netanyahou qui joue pour ses électeurs, nous avons l'Iran qui joue pour calmer sa population après la révolution de 2022. Et donc, il est très difficile de rester en termes géopolitiques mondiaux, de dire, voilà, ils vont faire ça. Non, ces leaders vont faire ce que leur peuple a l'air de demander. Et donc, à cet instant où tout le monde demande une riposte israélienne, y compris à ses antennes, c'est ce qu'on attend, c'est à quoi on s'attend, et ben c'est extrêmement dangereux, bien sûr.
Vous partagez cette inquiétude, Christophe Ayad?
Oui, et pour parler du Hezbollah, qui est un peu plus ma spécialité, vous avez quand même 80 000 Israéliens qui ont quitté leur foyer depuis le 8 octobre 2023 et qui ne sont pas retournés chez eux à cause des frappes du Hezbollah.
Dans le nord, faut vous préciser, c'est les Israéliens qui habitent à la frontière avec le Liban.
100 000 Libanais qui ont quitté leur foyer aussi dans le sud du Liban. Mais il y a une pression extrêmement forte de ces Israéliens pour mettre fin à la menace du Hezbollah. Le problème, c'est qu'on ne met pas fin au Hezbollah comme on ne met pas fin au Hamas. Le Hezbollah, comme le Hamas, c'est une idée avant d'être une armée.
Merci à tous les trois.
Merci.
Armin Arefi, Dov Alphon, Christophe Ayad. Je renvoie à votre livre Géopolitique du Hezbollah publié aux Presses universitaires de France et je renvoie également nos auditeurs au podcast de France Inter Israël-Palestine, anatomie d'un conflit par Thomas Negaroff avec Vincent Lemire qui est également disponible désormais en version papier, en livre. Merci à tous les trois.